10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, vous le savez, le samedi, Beurre FM est à votre service. 9h, 10h, on parle de droit avec Maître Serran. Et puis à partir de 10h, on parle d'islam pendant une heure avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonjour, imam Abdelali.
Bonjour, Philippe. Enchanté de être avec toi encore une fois pour un énième samedi avec nos auditrices et auditeurs sur Beurre FM afin de parler de religion, d'islam au présent. C'est important. Après le droit positif qui est bien sûr, qui prime sur toute autre loi, nous allons parler de cette foi nécessaire pour l'émancipation spirituelle de nos concitoyens, de nos co-religionnaires de confession musulmane.
Bon, est-ce qu'un imam a le droit de manger des chewing-gums Hollywood ?
Est-ce qu'un musulman a le droit de manger des chewing-gums ?
Non, un imam. Bah, un imam. Est-ce que mon imam du samedi a le droit de manger des chewing-gums Hollywood ?
Regarde, je l'ai jeté à la poubelle, ça va ?
Ah, ça va mieux.
C'est bien parce que ça donne une bonne haleine dans la bouche.
Parce qu'on s'en moque, c'est de la radio
qu'on
fait.
Ça fait digérer l'estomac, chewing-gum. C'est bien.
Ah bon ?
Faut pas l'avaler par contre, c'est pas bon. Hein.
Non, ça, je veux pas le résultat.
Bien sûr que le chewing-gum est halal, ce qu'approuve du contraire, bien sûr. Toutes les friandises, les bonbons, tout est halal. Sauf si, bien sûr, il y a à l'intérieur une composante qui n'est pas licite.
Bien, vous pourrez poser tout à l'heure vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, qui a maintenant eu une haleine mentholée au 01 53 48 3000. Qui c'est qui mange encore des chewing-gums à la fraise ?
Ah bah voilà, j'avais envie d'en manger d'un chewing-gum.
Il était en promo.
Peut-être, oui, c'est ça, t'as raison.
En plus, vous ne l'avez pas payé cher, votre paquet. Ouais, j'aurais dû me douter. Ouais, il y avait une solde.
Il y avait une solde, il y a un truc qui n'est pas net.
Il y avait un truc, arôme fraise. Oh mon Dieu. Bon, alors on va parler de la Qibla ce matin, Imam Abdelali.
Avec la gorge.
La Qibla. Parce que hier, quand j'ai vu la Qibla que vous m'avez envoyée, j'ai eu un peu peur et j'étais un peu confus dans ma préparation du sujet.
Heureusement que c'est en Allemagne, c'est pas en France.
Bon, alors Imam Abdelali, quelle a été la première Qibla de l'islam ?
Eh bien, c'était tout simplement la mosquée de Jérusalem. C'était Al-Masjid Al-Aqsa.
C'est la première.
C'était la toute première Qibla et ça a toujours été cette Qibla-là qui a été imposée par Dieu à tous ses prophètes. Tous les musulmans, tous ceux qui étaient les adorateurs de Dieu, que ce soit le peuple de Moïse, d'Abraham, Salomon, etc. Leur Qibla était la mosquée de Jérusalem, Al-Masjid Al-Aqsa. Et qui, bien sûr, a été construite après la mosquée de la Mecque.
Mais c'est pour ça, pourquoi alors finalement alors,
la première mosquée qui a été construite sur ordre de Dieu, par un être humain sur terre, c'est la mosquée de la Mecque, Al-Masjid Al-Haram. Dieu dans le Coran dit « Inna awwala baytin wudi'a lin-nas », la première demeure qui a été érigée par les gens, pour les gens, pour adorer Dieu, « L'alladhi bi Bakkata mubarakan », celle qui se trouve à Bakka, Béni, la bénie, Bakka la bénie, c'est-à-dire la Mecque. Wa hudan lil alamin. Fiha ayatun bayyinat, il y a en son sein des signes évidents. Maqam Ibrahim, notamment ce fameux échafaudage, ce rocher qui a été l'objet d'un miracle puisque les pieds d'Abraham se sont enfoncés dans la roche pour marquer le sceau du fabricant. Hein, du fabricant du Medine Ibrahim, hein, c'est la mosquée de la Mecque. Et la mosquée qui se trouve à la Mecque, Al-Ka'ba al-Musharrafa. Donc c'est Al-Ka'ba al-Musharrafa qui a été la toute première mosquée érigée pour adorer Dieu. Ensuite, 40 ans plus tard.
C'était la toute première mosquée de l'islam ?
Oui. 40 ans plus tard. Ouais. Attention, c'est Ibrahim et son fils Ismaël qui l'ont construit. 40 ans plus tard, donc son petit-fils, donc le fils de Ibrahim, c'est Isaac. Et le fils d'Isaac, c'est Jacob. Jacob, qui a comme deuxième prénom Israël, c'est le nom du prophète qui s'appelle Jacob. C'est lui qui a construit la mosquée de Jérusalem. Et à partir de cette date-là, Dieu a ordonné tous les prophètes, notamment le peuple d'Israël, d'adorer et de vénérer Dieu en s'orientant vers cette mosquée construite par Israël, c'est-à-dire par Jacob, qui se trouve à Jérusalem. Et même à l'époque du prophète, quand le Coran a révélé l'obligation, l'injonction de prier au prophète, les cinq prières quotidiennes, c'est toujours vers Jérusalem que s'est orienté le prophète et ses compagnons toute la période mécoise, c'est-à-dire à peu près un an et demi, 18 mois environ, avant l'immigration du prophète. même après l'immigration, pendant 16 mois, le prophète va encore une fois s'orienter vers Jérusalem. Jusqu'au jour, un jour, il décide d'aller rendre visite à une femme, qui est une personne qui lui tient à cœur. Elle s'appelle Umm Bishr, qui est une Khazrajia, c'est-à-dire elle fait partie de la tribu médinoise des Khazraji, qui est la tribu de la mère du prophète. La mère du prophète, Amina bint Wahb, a des oncles maternels qui sont des Khazraji, donc des gens originaires de Khazraj, qui est l'une des deux grandes tribus de Médine, les tribus arabes, puisqu'à Médine, nous avons des tribus arabes et des tribus juives. Quand dans le Coran, Dieu parle des Ahl al-Kitab, à Médine, par exemple, eh ben là, il fait allusion, bien entendu, à la communauté juive et les tribus juives de Médine. Il y en avait trois. Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Ce sont ces trois grandes tribus. Banu Qaynuqa, je répète, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayza. Ces trois tribus juives à Médine étaient, bien entendu, limitrophes aux tribus arabes Khazraj et Aous et les Khazraj, qui eux sont des tribus arabes et qui s'entendaient très bien, et il y avait une relation il y avait des partenariats, il y avait une certaine complicité, tout allait bien, il y avait un vivre ensemble qui était respectable et respecté. Le prophète, quand il arrive à Médine, cette relation va perdurer, il va même faire signer lui-même une charte entre lui et les communautés juives de Médine, une charte de paix pour le vivre ensemble, pour promouvoir l'entraide, la solidarité, etc. Voilà, donc tout va bien. Il va même essayer, le prophète, de continuer à les amadouer. Il va essayer de les convoiter à se convertir à l'islam, en disant, mais regardez, nous avons la même Qibla. Nous avons, et même quand on parle des musulmans, on dit Ahl al-Qibla, les gens de la Qibla. Ce sont les gens de la Qibla, c'est-à-dire les gens qui s'orientent vers la même direction pour adorer Dieu. Et donc Dieu, le prophète souhaitait, et même Dieu le voulait aussi. Et c'est ce qu'il dit dans le Coran, puisque pas moins de 9 versets, Philippe, vont faire allusion à cette nouvelle orientation de Jérusalem vers la Mecque. Pas moins de 9 versets sont révélés, le verset 142 de Sourate al-Baqara jusqu'au verset 150 inclus. Donc ça fait 9 versets qui vont parler, qui vont s'adresser au prophète et à sa communauté pour imposer et exiger une révolution, un changement d'orientation de la Qibla, de Jérusalem vers la Mecque. Alors pourquoi ? C'est le désespoir du prophète que le peuple juif, la communauté juive de Médine, décide de suivre le prophète, et au contraire, il décide de rester rétracteur et détracteur de sa révélation, et ne souhaite pas suivre le prophète. Donc le prophète cherche à se distinguer d'eux. Vous voulez pas de ma religion, eh ben tant pis. Moi, je vais tout faire pour me distinguer totalement de vos pratiques, sans haine. Il s'agit pas de haïr ou d'encourager l'antisémitisme, l'anti-judaïsme, etc. Mais il s'agit de distinguer les deux religions. Que lakum dinukum, à vous votre religion, à moi la mienne. Vous êtes juif, vous vous orientez vers Jérusalem, c'est normal. C'est l'orientation de tous vos prophètes. David, par exemple, le roi David est mort sur le Mont Sion, est enterré sur le Mont Sion, sous la scène où se trouvait Jésus avec ses apôtres, qui lui-même un prophète juif. Hein, on parle de Jésus, le prophète des Bani Israël. Et donc, il est très important, nous musulmans, de comprendre le lien que nous avons avec ce peuple-là, avec cette religion qu'on appelle le judaïsme. L'islam est une religion qui est intimement liée au judaïsme, puisque tous les prophètes juifs qui ont vécu avant Mohammed alayhi salallahu alayhi wa sallam sont nos prophètes à nous. Même le prophète, quand il arrive à Médine, il constate que les juifs jeûnaient un jour dans l'année. Il leur dit, mais quelle est la particularité qui fait que vous jeûnez ce jour-là? Il a dit, c'est le jour où est-ce que Dieu a sauvé Moïse de la tyrannie de Pharaon. Il a fait ouvrir la mer, vous savez, il a fendu la mer en deux, et il a permis au peuple de Moïse, et donc au peuple d'Israël, d'être sauvé de la tyrannie, et d'engloutir l'armée de Pharaon dans les flots de la mer, et donc anéantir définitivement la tyrannie de Pharaon. Donc nous jeûnons, c'est Ashura, tout à fait. Donc ce jour de Ashura, les musulmans ont donc imité les juifs. Mais le prophète, lui, a dit, attention, certes, nous considérons que Moïse est notre prophète, mais pour nous distinguer de la pratique religieuse, il ne s'agit pas de haïr les juifs, il s'agit de se distinguer de leur pratique religieuse, pour dire que nous avons notre religion et à vous la vôtre, mais dans le respect de la différence, dans le respect et la tolérance de chacun vis-à-vis de la foi de l'autre, eh bien nous allons jeûner un jour en plus. Nous allons jeûner le jour de Ashura, qui est le jour où Dieu vous a sauvé Moïse, mais nous allons jeûner un jour avant ou un jour après, comme l'a recommandé le prophète Ali sallallahu alayhi dans une multitude de références qui fait allusion à ce sujet. Alors donc dans ces 9 versets du Coran, Dieu évoque cette question-là. Il dit alors en substance, pour que nos auditeurs comprennent, les faibles d'esprit parmi les gens vont dire, qui les a détournés de la direction de la Qibla vers laquelle ils s'orientaient auparavant ? Dis, c'est à Allah qu'appartient le levant et le couchant, c'est-à-dire l'Orient et l'Occident, c'est-à-dire l'orientation de l'Est ou de l'Ouest. Il guide qui il veut vers le droit chemin. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Justement, ce verset-là, c'est le verset 146, qui est pile poil, le 143, excuse-moi, le verset 143, qui est pile poil au milieu de la sourate Al-Baqarah, la sourate la vache. 143 versets, c'est la moitié de 286 versets, qui est le nombre total des versets du Coran. Eh bien, ce verset-là parle du juste milieu. Le milieu de la sourate Al-Baqarah parle du juste milieu, il dit, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins aux gens, comme le messager sera témoin à vous. Et nous n'avions établi la direction de la Qibla vers laquelle tu te tournais que pour savoir qui suit, c'est-à-dire le verbe suivre, le messager Mohammed, et qui s'en détourne sur ses talons. Alors là, il fait allusion bien sûr aux communautés juives de Médine. C'était un changement difficile, dira Dieu, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, car Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Certes, nous te voyons tourner le visage et tous en tous sens dans le ciel. Le prophète était un petit peu, on va dire, incertain, un petit peu, comment on dit, quelqu'un de... قد نرى تقلب وجهك في السماء dira donc en arabe le Coran, le verset, pour dire que le prophète est un petit peu à la recherche d'une direction. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, nous allons donc t'orienter vers une qibla dont tu seras satisfait. Et là il dira Dieu à son prophète, فَوَلِّي وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée, où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire les juifs, savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité venant de leur Seigneur. À chacun une orientation vers laquelle il se tourne. Et rivalisez donc dans les bonnes œuvres. Donc il s'agit d'une priorité, puisque le verset coranique qui dira plus loin, laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib. La bonté pieuse n'est pas de chercher, de savoir s'il faut s'orienter vers ci ou vers là, vers l'est ou vers l'ouest. Mais la bonté pieuse, c'est de plaire à Dieu et de réaliser cette piété et cette walakin al-birra man ittaqa. Et bien entendu, la piété, c'est de réaliser, moi la bonté pieuse, c'est de réaliser les actes de piété. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où vous soyez, tournez-y vos visages afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont des vrais injustes. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi pour que je parachève mon bienfait à votre égard et que vous soyez bien guidés. Quels sont les rites concernés par les orientations ? Le verset qui nous parle à tous et qui nous impose à tout musulman d'orienter nos visages et notre prière vers la Qibla, c'est-à-dire vers la mosquée de la Kaaba à la Mecque, et bien entendu la toute première mosquée. C'est pour cela que Dieu veut dire mais celle-là mérite mieux, puisque c'est la toute première, c'est à elle mérite. Et justement, je parle en parlant de première, la première fois qu'en France, en métropole, c'est-à-dire dans l'Hexagone, une mosquée dont l'orientation a été érigée vers la Qibla a eu lieu exactement il y a 100 ans. C'est en 1922, au moment de l'inauguration de la première pierre, de la pose de la première pierre de la construction de la grande mosquée de Paris, qu'a été célébrée comme une cérémonie l'orientation des musulmans pour qu'ils prient vers la Qibla, vers ce sud-est, vers cette Mecque qui se trouve en Arabie Saoudite. Et nous allons le 19 octobre prochain, mercredi prochain, à la Grande Mosquée, célébrer cet événement extraordinaire.
Voilà, on parle de la Ribla ce matin jusqu'à 11h, Imam Abdelali. Et je rappelle à ceux qui nous écoutent et qui veulent intervenir et poser des questions, qu'ils peuvent le faire au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, Imam Abdelali Mamoun, nous parlons de la Ribla ce matin. J'aimerais que vous nous donniez déjà la définition du mot, alors étymologiquement et ensuite religieusement.
Alors, le mot Qibla est un mot composé de ces trois lettres, toujours dans la langue arabe, il faut chercher les lettres du radical. Qabala, Qabala, Qabala. Donc, on a d'abord le verbe Qabila, qui veut dire accepter. On a aussi le nom Qibala, ça veut dire en direction de, vers. En direction de qad nara falanwallianaka qiblatan ou bien qad nara taqallub wajhika, non c'est pas ce verset là, le verset qui dit qibala al-mashriqi qibala voilà qibala al-mashriqi wal-maghrib, en direction de l'est, où la bonté pieuse n'est pas de s'orienter. Laysa al-birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib, la bonté pieuse n'est pas de s'orienter, qibala en arabe, que de s'orienter vers l'est ou l'ouest, mais la qibla c'est d'être dans la bonté pieuse. De ce même mot nous trouvons aussi le terme qubla. Qubla qui veut dire un baiser, un bisou. Un bisou, on dit qublatun, ça veut dire c'est... Donc c'est, quand on dit s'orienter vers, c'est s'imprégner, ou plutôt agir pour cultiver un sentiment d'amour entre la personne qui s'oriente et vers la personne vers qui on s'oriente, ou du moins l'entité vers laquelle on s'oriente. Et là, en l'occurrence, il s'agit de Dieu. Il s'agit de cultiver cet amour entre l'homme et Dieu par cette qibla, par cette qubla que le croyant réalise entre lui et son Seigneur. Et à la fin, et afin finalement d'obtenir le kaboul, c'est-à-dire l'agrément et l'acceptation, le fait que Dieu agrée et accepte ton action et ton adoration, eh bien on va parler de kaboul. On dira aussi, quand quelqu'un fait une invocation à son frère, on dit taqabbal Allah, que Dieu agrée et accepte et soit satisfait de tes bonnes œuvres, et ainsi de suite. On parlera de ce qui est devant. Par exemple, le terme qubul, c'est le contraire de dobor. Le dobor, c'est le derrière, le postérieur. Tout ce qui est postérieur, c'est dobor. Tout ce qui est contraire au dobor, c'est le qubul, c'est ce qui est devant. Dans le Coran, par politesse, Dieu va utiliser ce terme-là pour parler des parties génitales de l'homme et de la femme qui sont devant, en parlant du sexe masculin ou féminin. Eh bien, Dieu va utiliser le terme qubul, ne pas confondre avec qaboul, qui veut dire agrément. Qabbala, embrasser, hein, quand on dit embrasser, c'est le terme qabbala, c'est bien entendu cultiver cet amour par un baiser, par une orientation de la personne vers l'être cher, et ainsi de suite. Donc voilà, ce mot-là, d'un point de vue étymologique, c'est tout simplement, il signifie l'orientation vers, afin d'obtenir un sentiment d'amour et de satisfaction de la personne vers qui on s'oriente. Voilà, c'est le croyant, il s'oriente vers Dieu, il se détourne pas, il ne tourne pas le dos à Dieu quand il parle, quand il s'adresse à Dieu. Donc il s'oriente vers une qibla qui lui permet d'obtenir la satisfaction divine.
Voilà. Alors quels sont les rites qui sont précisément concernés par cette orientation préalable vers la qibla?
Alors vous avez ceux qui sont d'abord obligatoires, c'est-à-dire que c'est une condition préalable à la validité de cette adoration, notamment la prière. Personne ne peut prier que seulement s'il est orienté vers la qibla, qu'elle soit obligatoire cette prière ou surérogatoire. Aussi la prosternation. On ne peut pas se prosterner vers Dieu, pour Dieu, que seulement si on s'oriente vers la qibla. Si on s'oriente vers autre chose, ça ne sera pas véritablement une prosternation vouée à Dieu. Voilà pour ce qui est des conditions obligatoires. Maintenant, il y a l'orientation vers la qibla comme étant une condition surérogatoire, une condition facultative. Eh bien, vous avez par exemple l'abattage rituel. Il est recommandé, quand vous égorgez un animal, de vous orienter vers la qibla, mais pas obligatoire. C'est-à-dire, si vous vous orientez pas, c'est pas grave. Votre chair, votre animal, sa chair sera quand même halal, elle sera licite. Hein, d'accord?
mais aussi quand on veut accomplir une prière surérogatoire quand on est en voyage. Par exemple, moi je suis dans la voiture, je suis passager, je suis le passager arrière ou devant dans le véhicule, et j'ai envie de prier Salat al-Duha. Le matin, il est 9h, 10h du matin, j'ai envie de prier Salat al-Duha. Cette prière-là n'est pas obligatoire. Eh bien, j'ai le droit de la faire assis sur ma chaise, quelle que soit la direction où s'oriente ma voiture. Le chauffeur, il roule en direction de l'est, de l'ouest, du nord, peu importe, cette prière surérogatoire que j'accomplis en déplacement ou en voyage, j'ai le droit de la faire sans respecter l'orientation de la Qibla, même si là, si je peux m'orienter vers la Qibla, eh bien, il est recommandé de m'orienter vers la Qibla. Aussi, je m'oriente vers la Qibla quand je veux lire le Coran, quand je veux aussi écouter l'imam dans la mosquée le vendredi, il est bien de s'orienter vers l'imam, vers la Qibla, vers la direction de où se trouve l'imam qui est face à moi en direction de la Qibla. Quand je vais faire des invocations, des du'as, je veux lever les mains, hein, il est recommandé qu'au moment où vous faites des du'as, des invocations, par exemple quand tu vas à Médine, Philippe, et que tu arrives devant la tombe du prophète, il est recommandé de faire des du'as. Sauf que le prophète, quand tu es face au prophète, tu as la Qibla à dos, c'est-à-dire la Qibla elle est derrière toi. Et comme tu t'adresses pas au prophète, mais que dans tes invocations, tu dois t'adresser à Dieu, eh bien là, tu dois tourner le dos à la tombe du prophète et t'orienter vers la Qibla pour t'adresser à Dieu et lui demander l'intercession du prophète. Tu dois demander à Dieu que le prophète, le jour de la résurrection, puisse intercéder en ta faveur par cette visite, par cette présence, par ces salutations que tu as fait et ces prières sur le prophète alayhi salatu wassalam. Eh bien, tu demandes à Dieu qu'il t'accorde cette intercession. En arabe, on dit shafa'a, shafa'at al-nabi alayhi salatu wassalam. Tu peux demander plein d'autres choses, que tu puisses le rencontrer, que tu puisses boire de sa main, de ses propres mains, l'eau du haud, de ce bassin qui sera réservé aux croyants le jour de la résurrection. Tout ça, on parle du tribunal divin, on parle de l'mahshar, le jour de la résurrection, où seuls les croyants qui étaient vraiment les amoureux du prophète auront le droit de s'agglutiner autour de la personne du prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète les reconnaîtra parce que ce sont des gens qu'il a connus de son vivant, c'est-à-dire les compagnons, mais ceux qu'il ne connaît pas, eh bien, il les reconnaîtra par la blancheur de leur visage, la blancheur de leurs mains et de leurs pieds, parce qu'ils auront accompli les ablutions à chaque prière, ou au moment où il fallait nécessairement faire leurs ablutions pour faire la prière, eh bien, le prophète les reconnaîtra par cette blancheur que Dieu accordera au visage, aux mains et aux pieds de ceux qui auront l'assiduité d'accomplir leurs ablutions pour faire la prière. Voilà comment cela se passera, cela, le jour de la résurrection. Voilà.
Alors, à quelle période de la vie du prophète, Imam Abdelali, a lieu ce changement d'orientation, et ça lui est venu à quel endroit ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure avant la pause, c'est lors d'une visite qu'il a eue chez une amie à lui. Cette femme-là s'appelle Bishr. J'arrive jamais à retenir ce nom de ce compagnon-là qui était un homme très important. Voilà. Al-Bishr ibn al-Bara ibn al-Ma'rur. Al-Bishr ibn al-Bara ibn al-Ma'rur. Alors, qui est cet individu? Cet homme, déjà, il est mort lors de la bataille de Khaybar. La bataille qui a eu lieu où le prophète il est mort empoisonné parce qu'il y avait une dame qui avait apporté un plateau de moutons qui était empoisonné, et lui en a mangé et il est mort. Donc, Bishr est un martyr lors d'une bataille qu'on appelle la bataille de Khaybar. Et donc, Bishr ibn al-Bara, c'est un citoyen ordinaire de la tribu des Khazraj qui a été érigé au grade de notable. C'est-à-dire, il est devenu le notable représentant de tous les Khazraj, de toute la tribu des Khazraj à Médine, en remplacement d'un autre homme qui s'appelait Al-Jidd ibn Qais. Alors, pourquoi le prophète a-t-il destitué le Jidd ibn Qais? Tout simplement parce que cet homme était un avare par excellence. Un égoïste, mais incroyable. Un pixou. Un homme qui aimait son argent plus que tout. Il n'était pas question pour lui de donner quoi que ce soit. Il était égoïste, mais à un point que sa réputation d'égoïste avait s'était répandue dans toute la ville. Et quand le prophète a interrogé les Khazraj, mais qui est votre Seyyid, votre seigneur, votre chef, votre maître parmi vous? Qui est celui qui est le notable, le personnage le plus important? Ils ont dit Al-Jidd ibn Qais, sauf qu'il est connu pour son égoïsme. Et là, le prophète a dit, mais il n'y a pas pire vice que l'égoïsme et que l'avarice. Donc il l'a destitué, il a dit mais dorénavant ça sera ce blanc frisé, al-abyad al-ajad, al-ja'd al-abyad, en parlant de al-Bishr ibn al-Bara ibn Mahrour, qui sera votre sayyid, votre seigneur, votre maître, votre représentant et votre notable représentant de la tribu des Khazraj. Et donc il s'appelle al-Bishr ibn al-Bara ibn Mahrour radiyallahu anhu. Et quand bien entendu il était vivant, le prophète allait le consulter pour qu'il puisse lui transmettre à ses concitoyens, à sa tribu, aux membres de sa tribu, ses recommandations, les choses qu'il avait besoin de transmettre. Il utilisait comme intermédiaire le notable qu'il avait désigné, qui s'appelait Al-Bishr ibn al-Bara ibn Mahrour, radiyallahu ta'ala anhu. Et notamment sa mère, il connaissait bien, c'était Umm al-Bara. Ibn al-Bara ibn Mahrour. Voilà ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu rendre visite à cette femme-là, et ils avaient dans la tribu où se trouvait cette femme-là une mosquée qui s'appelle la mosquée des Bani Salama. La Bani Salama, c'est la sous-tribu des Khazraj, dont fait partie Bishr ibn al-Bara. Et donc quand il était chez elle, il y a eu l'appel à la prière. Donc il est sorti de chez elle. Et il a demandé, la mosquée, elle était où? Ils avaient construit une mosquée, donc il est parti prier la mosquée là-bas. Et c'est la prière de Dhuhr, la prière quand le soleil est au zénith, vers 13h, midi 30, 13h. Eh bien, le prophète a prié, et au moment de la deuxième raka, quand il accomplit la deuxième raka, la deuxième unité de la prière, Dieu révèle le verset qui parle de justement de se réorienter, non plus vers le nord, vers Jérusalem, mais au contraire vers le sud, où se trouve la Mecque, où il y a la mosquée de sacré de la Mecque, la mosquée d'Ibrahim alayhi salam. Et qu'est-ce qu'il fait? Il interrompt sa prière, il traverse les rangs des compagnons qui étaient devant lui, et il va jusqu'au dernier rang des hommes qui étaient derrière lui, et il se met devant eux et il leur dit: changez d'orientation, mettez-vous en direction du sud et non plus du nord. Et là il va continuer sa prière, donc il va faire deux raka'a en direction de Jérusalem et deux raka'a, deux unités en direction de la Mecque vers le sud. Et c'est depuis cette date-là que cette mosquée porte un surnom, on l'appelle Masjid al-Qiblatayn, Masjid Bani Salama, hein, la mosquée des Bani Salama dans le quartier de la tribu des Bani Salama, qui est une tribu des Khazraj, une sous-tribu des Khazraj. Et c'est depuis cette date-là que cette mosquée portera ce nom. Jusqu'à aujourd'hui, il y a écrit à l'intérieur de cette mosquée le verset coranique: قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ. Oriente-toi donc à partir de là vers la mosquée sacrée de la Mecque. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Et où que vous soyez, orientez-vous vers celle-ci. Donc c'est dans cette mosquée-là qu'a eu lieu ce changement d'adresse. Et ça a eu lieu 16 mois après l'arrivée du prophète à Médine. C'était tout simplement après la bataille de Badr, dans l'année 2 de l'Hégire. Non, avant la bataille de Badr, excuse-moi, un peu avant la bataille de Badr, qu'a eu lieu ce changement d'orientation.
On continue d'en parler dans un instant. Je rappelle que si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, c'est très simple. Vous composez le 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beur FM, 10h, 11h. L'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et c'est le temps de vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. Alors là, vous nous appelez au 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Imam Abdelali, on vous écoute en Suisse.
Oui, mais écoute, tant mieux. Enchanté, bienvenue à notre...
À Nasera.
À nos auditeurs de Suisse, voilà. Marhaba.
Nasera. Bienvenue, Nasera.
Oui, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam, Nasera.
Oui, je vous écoute, ça fait quelques années maintenant. Je programme toujours le samedi à 10h pour écouter notre cher imam. Donc j'apprécie beaucoup toutes ces émissions.
Enchanté.
Et qui m'apportent beaucoup.
Merci, ma sœur. Allah yahfadhak.
Alors, Ami, j'ai cette question, imam. C'est par rapport à les femmes qui vont faire le Hajj ou la Umra.
Oui.
Est-ce que aujourd'hui, parce que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans une émission on disait que comme quoi aujourd'hui la femme n'est pas obligée d'être accompagnée par un homme.
En effet, ma sœur, la fatwa est, on va dire, conditionnée par l'époque, par l'environnement et par le texte. Il est conditionné par le texte et le contexte. Voilà, en gros, pour être clair et succinct. Et étant donné que le contexte a changé et qu'une femme qui se déplaçait hors zone de droit, puisque quand vous sortiez de l'agglomération de la Mecque ou de Médine ou d'une ville ou d'une tribu et que vous vous retrouvez dans les terrains, les sentiers battus, eh bien, vous vous retrouviez dans des zones de non-droit, des zones où il y avait des brigands, des personnes qui pouvaient vous faire du tort. Et donc, dans le souci de protéger les femmes qui, à l'époque, n'avaient d'autres moyens de se protéger que leurs bras, et que les bras de ces femmes-là étaient très fragiles par rapport à celui des hommes, et ça a toujours été comme ça, hein, et on sait que la femme, l'homme a en moyenne 40% de masse musculaire plus importante que celle des hommes, et donc, à l'époque, c'est les hommes qui portaient les armes, c'était les hommes qui pouvaient faire du mal et protéger leur environnement. Il n'y avait ni gendarmerie, ni police, ni armée, ni rien du tout. Donc c'est dans ce cadre-là que le prophète a dit non, il ne faut pas voyager, vous allez vous mettre en situation périlleuse. Je vous interdis, il a dit aux femmes, je vous interdis dans le but de vous protéger, de voyager sans que vous soyez accompagné par un homme qui puisse vous protéger. Mais Aïcha radiallahu anha, à son époque, après la mort du prophète, a accompli le pèlerinage de Médine jusqu'à la Mecque. On parle de 10 jours, hein, 10 nuitées en bivouac à la belle étoile, où Aïcha, Umm al-Mu'minin, la mère des croyants, épouse du prophète, a été accompagnée par aucun membre de sa famille, mais par Othman ibn Affan et Abdurrahman ibn Auf, qui sont des nobles compagnons du prophète, mais pas les membres de la famille de Aïcha. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché de voyager sans mahram. Et nous avons d'autres exemples que je ne pourrais pas avoir le temps de vous relater ce matin, mais qui prouve bien qu'une femme aujourd'hui, si il y a l'aman, c'est-à-dire la sécurité du voyage, eh bien elle peut voyager. Et là, en l'occurrence, voilà, on est certain que quand
si vous voulez bien, Imam Abdelali, on va passer de la théorie à la pratique. Est-ce que pratiquement aujourd'hui, une femme qui veut aller faire le Hajj sans mahram, elle peut y aller
oui,
ou pas?
Oui, tout à fait.
Les autorités saoudiennes vont la laisser rentrer.
Alors, à un moment donné, ils avaient interdit les femmes de moins de 45 ans.
Oui.
Maintenant, ils ont enlevé ça, et notamment celles qui ont un passeport français, qui sont de nationalité française et qui obtiennent un visa touriste avec lequel elles peuvent voyager où est-ce qu'elles veulent dans le territoire saoudien. Elles peuvent même aller à Riyad ou à Jeddah ou à Dammam ou dans d'autres endroits en Arabie Saoudite. Elles peuvent visiter comme une touriste peut visiter n'importe quel pays dans le monde. Eh bien, elles peuvent aussi voyager.
Quelques agences de voyage qui l'autorisent pas, Imam.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai.
Toutes les agences de voyage
n'ont pas le droit de refuser. Ils n'ont pas le droit de refuser à partir du moment où les autorités saoudiennes l'ont autorisé. Et donc, ce sont des savants saoudiens qui sont très conservateurs et très, on va dire très. Eh bien, l'ont autorisé. On n'a pas le droit d'interdire à une femme de voyager, d'aller même où est-ce qu'elle veut, que ça soit à la Mecque ou ailleurs. Pourquoi on devrait l'infantiliser, lui garder ce statut de mineur à vie? La femme est une personne responsable, réfléchie. La seule chose que voulait le prophète à travers le hadith qu'il interdit ou qui lui impose justement la présence d'un mahram, c'était le fait de la protéger, de vouloir protéger son intégrité physique et morale. Et son honneur, sa dignité surtout. Parce que
est-ce que ça répond à votre question, Nassera?
Oui, merci Philippe, vous avez devancé ma deuxième question par rapport à la pratique, c'est ce que je voulais demander.
Il y a deux sons de cloche qu'on entend aujourd'hui.
Écoute, il y a le hadith qui dit que la femme qui croit en Dieu au jour du jugement dernier ne doit pas voyager plus de 3 jours sans mahram. Voilà. Et donc Aïcha, ça veut dire qu'elle n'avait pas la foi. Elle n'était pas musulmane digne de cela. L'important, je répète, que les compagnons ont compris le sens du hadith du prophète, qu'il s'agissait de protéger la femme, d'éviter que des personnes puissent porter atteinte à sa dignité. À partir du moment où une femme est encadrée, se retrouve dans ce qu'on appelle as-suhba as-saliha, dans un encadrement religieux avec un imam et d'autres femmes avec elle, etc., eh bien, je vois pas d'inconvénient. Par contre, une femme seule, qui voyage seule avec un homme, qui n'a aucun lien de parenté ni marital avec elle et qu'elle voyage seule et qu'elle se retrouve seule, là par contre ça peut être dangereux parce qu'ils peuvent être tentés par le diable, c'est sûr.
Par le diable, oui.
Ouais, c'est sûr que Shaitan il peut faire beaucoup de dégâts dans ce domaine-là. Exactement. Donc une femme, si elle est accompagnée dans un groupe, elle est avec un imam, avec un groupe de personnes, là effectivement il n'y a pas de difficulté pour cette femme-là d'aller accomplir la Umrah ou le Hajj. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Ah oui, oui.
Et moi je parle le 25, Inch'Allah.
Inch'Allah.
Et avec beaucoup de femmes en plus.
C'est magnifique, franchement, Mach'Allah, c'est magnifique.
Ouais.
Je suis vraiment contente qu'aujourd'hui, les femmes, comme vous l'avez dit, dans notre temps d'aujourd'hui, les femmes puissent faire ce voyage seules maintenant et plus être obligées d'avoir un mahram.
Oui, voilà. C'est écoutez, c'est moi aussi, je suis content. On a même une. Dans notre équipe de Beurre FM qui va partir, je terrerai son nom.
Je terrerai.
C'est le mamounet.
Du verbe terrerai.
Le verbe terrerai. Le verbe terre.
Terrerai.
Voilà.
Terre.
2 €.
Mashallah.
Terre. Comment on dit, quoi? C'est comment qu'il faut dire? C'est
je
quoi la formule?
Terrerai.
Je terrerai.
Terrerai le nom.
Je terrerai le nom.
Nasser, en tout cas, on vous fait un gros bisou.
En tout cas, je vous souhaite tous d'être sous la protection d'Allah.
Je suis pas sûr que son mari soit d'accord que tu lui fasses un bisou. Philippe.
Non,
vous autorisez aux femmes, vous, à la Omra sans marab, je peux faire des bisous téléphoniques par la radio. Hein.
Tu peux dire, je vous
exactement.
Salue.
Exactement. Je vis seule et je
lui veut faire des bisous à tout le monde, lui.
Mais ce sont des bisous d'amitié. Y a
mais
pas
voilà,
de
bisous,
des bisous d'amitié.
Des bisous radio.
Pour toute la Suisse.
Merci Nasser, en tout cas.
Oh, je vous souhaite de bien continuer.
C'est important de donner un petit peu un petit goût d'atmosphère agréable.
Bon, après Imam Abdelali, pour tous ceux qui prennent l'émission en route et qui peuvent s'étonner de cet assouplissement, je vais dire, entre guillemets, ça fait quand même longtemps que je fais des émissions avec vous. Vous avez pas toujours dit ça. Donc aujourd'hui, on veut dire que l'assouplissement de l'entrée à la Mecque et des lieux saints pour les femmes sans mahram, ça date de quand à peu près?
L'autorisation?
Oui.
Alors les femmes sans mahram ont toujours eu le droit à partir du moment où elles avaient plus de 45 ans.
Oui, voilà, c'est ça.
Attends, je vais mettre clair. Avant 2013, les femmes pouvaient partir même si elles avaient moins de 45 ans. C'est à partir de 2013 que ça s'est endurci. En 2013, ça s'est endurci. Seules les femmes qui avaient plus de 45 ans pouvaient partir sans mahram. C'est-à-dire sans son père ou son mari, etc. Et là, depuis 2 ans, depuis la fin du Covid, eh bien, il y a une nouvelle organisation sur le fait qu'aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, ouvre ses frontières au tourisme religieux, mais aussi culturel.
Au tourisme, à tout le monde. Au tourisme avec un grand T.
Voilà, avec un grand T où les gens vont visiter, par exemple, des lieux,
des
secteurs archéologiques, pas seulement religieux, hein, mais même pourquoi pas des édifices ancestraux qui datent de milliers d'années, etc. Ou même récents, hein, et notamment l'accomplissement de la Umrah. Donc, ils ont mélangé le tourisme religieux et le tourisme culturel en un seul visa qu'on appelle le visa touriste. Et grâce à ce visa touriste, si vous avez une nationalité française, un passeport français, vous pouvez obtenir un visa touriste et donc aller à la Mecque, à Médine, à Riyad, à Jeddah, partout en Arabie, comme vous pouvez le faire partout ailleurs quand vous prenez un visa sur le territoire français.
Ce qui veut dire que techniquement, aujourd'hui, vous pouvez organiser votre voyage comme bon vous semble, c'est-à-dire prendre un billet d'avion séparé, prendre un hôtel sur place et prendre des prestations sur place. Vous n'avez plus besoin d'une agence.
Plus personne.
C'est ça que ça veut dire.
Ça, si je parle de la Umrah, attention.
Oui, pour la Umrah.
Pas du Hajj. Hajj, c'est encore une autre organisation.
Ouais, c'est autre chose.
Pour le Hajj, c'est une autre organisation. Mais là aussi, pareil, si la personne a la nationalité française, elle présente un passeport français et donc elle veut faire un visa à Hajj, normalement, elle n'a pas besoin de prouver la présence avec elle d'un mahram. Elle peut obtenir le visa.
Voilà, c'est depuis le Covid que ça s'est assoupli.
Ça s'est assoupli, alors que ça s'était endurci en 2013. Alors qu'avant 2013, c'était souple. Moi-même, je me rappelle, en 2010, j'ai pris un certain nombre de jeunes femmes avec moi, y compris il y avait ma femme avec eux, et la plupart d'entre elles n'avaient aucun mahram avec elles. Et après 2013, ça s'est endurci, en effet. Voilà.
Mais votre femme, elle n'avait pas besoin d'un mahram.
Si. Parce que j'étais pas encore marié civilement.
Ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui.
Voilà, ça. Je parle en 2011 là.
Ah oui.
2011.
D'accord. Bien.
Parce qu'on n'avait pas encore.
Il y a du dos.
Document
là.
Officiel.
Vous partez bientôt, Imam Abdelali, reste de la place.
Je parle le 25, Inch'Allah.
Ouais. 25 octobre, donc c'est pour une Umrah de combien de jours?
Alors, la Umra va durer jusqu'au 6, jusqu'au dimanche 6, au soir. On rentre, on arrive à 20h20 à Roissy-Charles-de-Gaulle en retour de ce voyage. Donc, c'est 12 jours, 6 jours à Médine, 6 nuitées à Médine et 6 nuitées à la Mecque. Donc une Jumu'a à Médine et une Jumu'a à la Mecque. Un certain nombre important de visites, lieux de visite à Médine, notamment, bien sûr, la plus importante, c'est la mosquée de Médine et la tombe de notre prophète bien-aimé Mohammed sallam et ses deux compagnons Abu Bakr et Omar, Al-Baqi, Aqouba, Uhud, etc., etc. Nous aurons un certain nombre de lieux à visiter à Médine et notamment la mosquée Qiblatayn, cette mosquée vers laquelle c'est dans la mosquée de Bani Salama où a été changée l'orientation de la Qibla à l'époque du prophète, 16 mois après l'arrivée du prophète de Médine à Médine, donc de la Mecque à Médine. Et donc, après la Hijra, quoi. 16 mois après la Hijra, il y a eu ce changement d'orientation dans la mosquée Qiblatayn que nous pourrons aussi visiter. Donc aussi à la Mecque, après on descend à la Mecque en bus avec la Talbiya et toute l'ambiance spirituelle que c'est la convivialité, la joie des femmes et des hommes qui seront avec nous dans ce voyage. Et nous allons pouvoir accomplir dans un hôtel 5 étoiles, Movembique, en face du Haram, sous l'horloge, dans des conditions assez agréables, accomplir cette Umra autour de la Kaaba et Zamzam et le Maqam Ibrahim, Safa ou Al-Marwa, etc. Et nous pourrons aussi, là aussi, faire des visites, un certain nombre de visites, notamment des visites du parcours du Hajj, Arafat, Muzdalifa, Minan, les Jamarat, etc. Mais aussi la mosquée de la montagne de Saour, où il y a eu l'immigration. Le prophète s'est caché dans la grotte, ou la montagne où il a reçu la première fois la révélation, Ghar Hira, dans la montagne de Nour, là, Jabal Nour. Donc tout ça, ce sont des lieux intéressants à visiter lors de notre voyage. Il y aura d'autres choses aussi, d'autres surprises. Pour ceux qui souhaitent en tout cas m'accompagner, ils reviennent vraiment reboostés, complètement comblés, parce qu'ils auront découvert le berceau d'islam, l'endroit même où est-ce que...
Qu'est-ce que vous comprenez pas dans ce que je vous dis, madame Delali?
Tu m'as dit de me dépêcher.
Voilà. Je vais terminer. Mais qu'est-ce que vous comprenez?
C'est magnifique,
pas
en tout cas.
Donnez votre numéro.
06 29 25 35 00. Pour toutes vos questions, toute inscription pour la Umrah. 06 29 25 35 00.
Voilà. Départ le 25 octobre et dans un instant, ce seront vos petites annonces sur Beurre FM.
Retrouvez l'islam au présent en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.